Alléluia. Et tous les saints l'acclament, et tous les saints le célèbrent, et tous les saints le rendent fameux, et tous les saints reconnaissent sa miséricorde et son amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. À jamais tu es saint. Merci Jésus. Même seul, je t'adorerai et je te louerai. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait pour chacun, mais je sais avec exactitude ce que tu as fait pour moi. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Pour que tu danses comme ça ou que tu sois timide, je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Ça, du moins, je connais avec exactitude ce qu'il a fait pour moi. Alors, si quelquefois tu me vois exagérer un peu, ne sois pas scandalisé. C'est en fonction de ce qu'il a fait pour les uns et qu'il n'a pas fait pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dimanche 23 mars 2025, ce n'est pas 24 anglais. 2025. Message au culte de la borne Matadi. Thème, vous le connaissez. Réjouis-toi stérile. Combien? 11. Petit à petit, le nombre augmente. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, le verset 1. À partir le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous lirons tous les chapitres, comme nous l'avons lu au premier message. C'est un chapitre exceptionnel, je vous assure. Un chapitre puissant, et chaque verset est vivant en son sein. Lisez les Écritures et Dieu vous bénira. Réjouis-toi stérile, 11. Ésaïe 54, le verset 1. Lisons tous ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allons-y. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils, la dernière partie, nous la lisons à haute voix tous ensemble. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est marié. Et tout cela dit l'Éternel. Nous accueillons la parole du Seigneur. Et tout cela dit l'Éternel. Nous accueillons la parole du Seigneur. Avec cri de joie, applaudissement, avec enthousiasme, avec reconnaissance. Le fait de l'accueillir de cette manière, elle fait des affaires dans nos cœurs. Le fait de l'accueillir de cette manière, elle transforme notre existence. Nous disons qu'elle nous a transformés et pourtant elle a encore des choses à faire en nous. Béni sois-tu Seigneur, donne la force et la vie qu'il faut pour celui qui parle et donne l'attention et la vie qu'il faut pour ceux qui entendent. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse par sa parole. Que le fait que vous l'entendiez, vous soyez pur. Que le fait que vous l'entendiez, vous soyez sanctifié. Et que le fait que vous l'entendiez, que vous soyez affranchi. Selon qu'il est écrit, déjà vous êtes pur par la parole que je vous ai annoncée. Selon qu'il est écrit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or la vérité c'est Jésus et Jésus c'est sa parole. Si vous la connaissez ce matin, ne vous étonnez pas que vous soyez affranchis dans plusieurs domaines de votre vie. C'est ça ce qui fait notre force, notre foi. Merci Seigneur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Après ces multiples et édifiantes vérités, cette déclaration, laquelle? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Après ces multiples et édifiantes vérités, cette déclaration nous a enfin conduit à la double question qui est l'époux de cette stérile, cette femme stérile, d'une part, et d'autre part, qui est à qui, de qui la femme mariée était-elle l'épouse pour que toutes les deux aient des fils. Parce qu'il y a une sorte de comparaison entre le fils de celle qui est mariée et le fils de celle qui n'est pas, qui a été délaissée. Donc il y a deux femmes, et donc il y a une sorte de course, de comparaison. Nous avons vu toutes ces choses, c'est merveilleux dans les Écritures, merveilleux de lire les Écritures avec attention et surtout sous l'impulsion du Saint-Esprit. S'il vous plaît, peu importe le temps que vous avez un court temps pour sortir de la maison, vous avez un court moment pour aller, je ne sais pas, vaquer à vos activités, ne sortez pas de la maison sans avoir médité quelque chose, murmuré quelque chose au Seigneur et médité quelque chose, même un morceau de la parole comme je l'appelle. S'il vous plaît, ça vous éclairera et ça éclairera toute votre journée. Et ça vous donnera l'énergie que le petit déjeuner matinal ne donne pas. Je vous assure, vous comprenez? S'il vous plaît, frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, cela ne doit pas être comme une sorte de corvée ou une sorte d'habitude religieuse. Non, cela est notre vie. Et si jamais je n'ai pas pu, alors... Si j'ai un chauffeur et que moi je suis le patron, je suis derrière comme les patrons sont toujours derrière et que tu as un chauffeur, alors pendant que tu vas là-bas, médite dans ta voiture. Et sinon, tu es au volant et que tu as la Bible qui a des parties audio. Voilà. Vous pouvez, au lieu de lire, vous mettez la partie audio. Mais quelle que soit la méthode que vous utiliserez, ne traversez pas la journée sans avoir lu un seul morceau des Écritures, sans avoir écouté. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres lire la Bible à votre place et venir vous donner leur point de vue. Vous m'entendez? Parce que ici, ce que je vais vous donner, c'est ma compréhension. Et cette compréhension, je la veux spirituelle pour nourrir un nombre important comme vous l'êtes. Mais je ne suis pas Dieu pour que je dise exactement ce que vous avez. Moi, je comprends à ma manière. Et peut-être ce que je vous dis, Dieu l'a dit à moi, et moi, je le transforme à vous donner. Mais si vous lisez vous-même, vous écouterez des choses selon votre contexte. Ça, c'est merveilleux, mes amis. S'il vous plaît, ne dépendez pas des prédicateurs. Ne dépendez pas des prédicateurs. Et pour la plupart des fois, les prédicateurs vous donnent que une sorte de porte ouverte, afin qu'en lisant à la maison ce qu'il a dit, vous compreniez mieux. Lui n'a été qu'une sorte d'encouragement pour vous ouvrir la porte. Vous voyez? S'il vous plaît, mes frères, analysez les Écritures. Merci Jésus. Donc il y a deux femmes là, et nous avons vu pas mal de choses. Elles ne pouvaient pas avoir des fils parce qu'on fait la comparaison entre leurs fils. On ne pouvait non, la comparaison du nombre de leurs fils, sinon des nombres de leurs fils. Elles ne pouvaient pas avoir des fils si elles n'étaient pas mariées. Donc elles avaient des maris. Et nous sommes posé cette question. Hein. Qui y est l'époux, le mari de la femme stérile et de qui la femme mariée était-elle l'épouse pour que toutes les deux, enfin, finalement, aient des fils? Nous y avons répondu à cette question, à cette double question. Nous avons répondu tour à tour. Donc, nous y avons répondu tour à tour par le verset 5 de notre chapitre, le chapitre 54, verset 5e. Nous pourrons lire encore tous les chapitres le dimanche prochain, et nous l'avons déjà fait. Donc, le verset 5e de notre chapitre a une réponse à une partie de cette question. Nous y avons donc répondu tour à tour par le verset 5 de notre chapitre. Nous y avons répondu par Israël et les autres nations. Nous y avons répondu par l'Église dans le monde. Pour terminer ce matin par y répondre au travers des épreuves dans la marche avec Dieu. Il y a des épreuves dans la marche avec Dieu. Je disais qu'il y a des épreuves dans la marche avec Dieu. Dis à ton voisin, dis à ton frère à côté, mon frère, ma sœur, il y a des épreuves dans la marche avec Dieu. Dis-lui, avec beaucoup de courage, dis-lui. Il faut que ton frère le sache. Il faut que ta sœur le sache. Car plusieurs fois, nous venons dans la maison de Dieu auprès du Seigneur avec des fausses notions de la marche avec Dieu. La Bible ne le cache pas que celui qui veut venir après moi, venir après un homme, ça veut dire quoi? Marcher avec lui. que celui qui veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et quand nous voyons, quand lui-même a porté la croix, qu'est-ce qu'il a subi, alors nous pouvons savoir ce qu'il voulait dire. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il dit, vous êtes dans le monde aimerait ce qui est en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous qui marchez avec moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il est clairement établi dans les Écritures, très clairement, si vous ne lisez pas, c'est votre affaire. Vous écouterez tout simplement les points de vue des serviteurs. Ils ne prendront que quelques portions qui leur sont favorables et les amèneront devant vous. C'est ce qui fut dans le passé, dans les temps passés, avant qu'il y ait cette réforme protestante, avant qu'il y ait l'invention de l'imprimerie, afin que la parole de Dieu soit envoyée à tout le monde. Jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas encore atteint tout le monde, malgré tous les moyens multipliés. À l'époque, c'était comme ça. Il fallait que quelques hommes d'église choisissent quelques portions des Écritures qu'ils amènent devant le peuple de Dieu et qu'ils les distribuent. On ne peut pas, ils ne pouvaient pas leur permettre d'avoir accès à la Bible. Et c'est Dieu, le Seigneur lui-même qui a fait cette révolution en touchant un serviteur, Luther que vous connaissez. Martin Luther, que vous connaissez très bien, ce n'est pas Martin Luther King. Martin Luther, l'Allemand, il a connu cette transformation en disant, mais écoutez, on ne peut être sauvé que par la foi et la foi simplement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvé. Si vous faites quelque chose, faites-le pour l'amour du Seigneur, ce n'est pas pour vous sauver vous. Mais pour le salut, il n'y a que par la foi. Et mon fils vivra par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Il sera complètement transformé lui-même et puis il va mener cette révolution qu'on appelle protestante. Pourquoi? Parce qu'il a protesté. La foi ne s'acquiert pas par des indulgences. La foi ne s'acquiert pas par des sacrifices. La foi ne s'acquiert pas par des dons. La foi ne s'acquiert pas par des œuvres. Je chante pour être sauvé. Je prêche pour être sauvé. Je vais à l'église pour être sauvé. Je donne l'argent pour être sauvé. Je donne ma dîme pour être sauvé. Non! Toutes ces choses, on les fait pour l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Ce sont des choses qui suivent le salut et non les choses qui produisent le salut. Alléluia. Ce sont les choses qui suivent le salut et non des choses qui produisent le salut. Alors il va commencer à multiplier la Bible et comme Gutenberg aussi, par la grâce de Dieu, Gutenberg aussi était chrétien, Dieu va lui donner à lui, vous voyez, quand le Seigneur donne une vision, il donne une provision. À la même époque, Gutenberg va inventer l'imprimerie. Et depuis lors, la parole de Dieu a été multipliée pour être envoyée à tout le monde. Parce que les hommes d'église disaient, le peuple n'a pas l'intelligence convenable pour comprendre la parole. Nous allons lire, nous, et nous allons leur expliquer. Et vous voulez que ce soit encore aujourd'hui, le peuple, les serviteurs de Dieu passent devant vous avec ce qu'ils ont lu et compris. Et ils vous disent, et puis vous ne lisez jamais ça. Non, je lis la Bible. De telle sorte que même quand il ressusciterait des morts, s'il est devant, je dois analyser ce qu'il dit, si c'est conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme, même quand tu ressusciterais les morts, je quitte ton église. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. On ne joue pas avec sa vie éternelle. Quelles que soient les affinités, même si c'est votre papa qui est pasteur, si ce qu'il dit n'est pas conforme aux Écritures, quittez. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est merveilleux tout ce que nous avons vu ensemble. Donc, il y a des épreuves dans la marche avec Dieu. Il est clairement dit que tout celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Ce sont des épreuves. Ce sont des luttes. Ce sont des épreuves. Malheureusement, nous avons encore la mentalité de la loi pour la plupart dans nos églises, la mentalité de la loi. De telle sorte que, toute fois que quelqu'un traverse des moments difficiles, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait quoi. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être éprouvé. Les épreuves, que tu sois parfait, entre guillemets, comment les épreuves tu en auras? Dieu peut te rendre témoignage. Il n'y a pas un homme intègre sur la terre comme lui. Mais dans ta vie, les épreuves viennent. Tu as ton intégrité, mais tous les enfants meurent. Tu as ton intégrité, toute ta richesse balayée en un seul jour. Tu as ton intégrité, mais tous tes serviteurs, toute ton économie balayée en un seul jour. Tu as ton intégrité, mais toute ta santé est complètement dérangée. Et pourtant tu es intègre, toi-même tu t'examines, rien. Dieu lui-même te rend témoignage que tu es intègre, mais les épreuves s'abattent sur toi. Enfant de Dieu, grandissez! Comprenez que ce n'est pas à cause du péché que toutes les épreuves nous arrivent. Il y a des épreuves du péché, et les épreuves du péché ne sont pas des épreuves, sont des conséquences. Sont des conséquences. Et la tentation n'est pas une épreuve. La tentation vient du diable. L'épreuve vient de Dieu. Dans l'épreuve, il n'y a pas la notion de vous détruire. Mais dans la tentation, il y a la notion de vous effacer. Vous voyez ? Donc les épreuves arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Ça ne peut pas arriver dans la vie des païens. Les païens ne connaissent pas des épreuves. Les païens vivent la vie du monde et la vie du péché et la vie de la déchéance. Mais les chrétiens sont éprouvés. Et quelqu'un te dira dans ta famille, depuis que tu t'es converti, tu étais bien, on t'avait dit quoi? Les histoires de l'église là, ça amène beaucoup de troubles. Maintenant que depuis que tu es dans l'église, tu vois comment tu souffres. Il dit oui, mon sauveur a souffert. Je préfère souffrir maintenant et me réjouir éternellement que de me réjouir maintenant un peu et souffrir éternellement. Si vous ne ceux qui souffrent avec moi régneront avec moi. Toutes ces choses-là, vous les lisez dans la Bible, oui ou non? Okay. Hein? Donc il y a les épreuves dans la marche avec Dieu. Qui sont ceux qui sont ici sur place et qui marchent avec Dieu? Levez les doigts, je vais voir. Je ne dis pas qui prie à la borne, vous êtes nombreux. Je ne dis pas qui connaissent le frère Maurice, vous êtes nombreux. J'ai dit qui sont ceux qui marchent avec Dieu? C'est-à-dire que Jésus est en vous, vous marchez avec lui. Levez les doigts, je vais voir. Ok, vous aurez les épreuves. Ou bien, vous avez les épreuves. Ok. Qui sont ceux qui marchent avec Dieu et qui connaissent les épreuves? Lève la main, je vais voir. Voilà, ça confirme les Écritures. Vous n'êtes pas des pécheurs, mais vous avez des épreuves. Mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les épreuves avec Dieu. Les épreuves dans la marche avec Dieu sont une réalité difficile. Même quand j'en parle là, ce n'est pas avec joie. Je traverse une épreuve, sinon des épreuves qui n'ont pas de nom, je vous assure. C'est parce que le Seigneur, dans sa bénédiction, m'a amené dans une hauteur de la bénédiction très élevée. C'est pourquoi ces épreuves ne m'effacent pas. C'est parce que le Seigneur, dans sa grâce, m'a amené dans sa relation avec lui, dans une profondeur considérable, une racine solide. Sinon, je ne tiendrai pas devant cette épreuve. Elle n'a pas de nom. Elle me fait connaître des injures, elle me fait connaître toutes sortes de moqueries en secret, elle me fait connaître toutes sortes de mépris. Il n'y a que lui qui a des problèmes pour qui on doit prier. Ce n'est pas grave, et moi je ne peux pas cacher mon épreuve. Si je suis éprouvé, je l'ai dit, jusqu'à ce que le Seigneur vienne en aide. Les gens me posent la question, jusqu'à présent rien, j'ai dit que moi ou que vous connaissez, le jour qu'il sera délivré de cette épreuve, et que tout ce qu'il attend, selon que le Seigneur lui a tracé un chemin, s'il arrive là-bas, pour moi ou vous n'oublierez pas, il n'aura pas besoin de témoigner pour que vous sachiez que Dieu est passé par là. Vous le verrez de vous-même. Mais entre-temps, je suis coincé dos au mur, le Seigneur m'a montré tout. C'était facile à voir, mais ce n'est pas facile à vivre. Je l'ai vu dans quelques secondes, mais le vivre, ça fait déjà ça. Nous sommes dans la 11e année dans peu de temps. 11 ans. Et 11 ans dans la dernière partie la plus difficile. Mais que dire si je dois considérer que cette épreuve, son annonce avait commencé depuis 1994 et jusqu'à présent. Il n'a fait que tout ce qu'il a fait, c'est confirmer. Je suis là, c'est pour moi. Voilà l'autre aspect. Je suis moi, c'est pour moi. Je suis là, c'est pour moi. Mais c'est pour toi, Seigneur, je suis en train de vieillir, tu ne vois pas, tu ne dis rien, je suis en train de souffrir, je suis un homme, je suis en train de souffrir, tu ne vois pas, Seigneur, tu ne vois pas que je chancelle depuis que cette épreuve me ronge, tu ne vois pas, Mais quand je passe devant, personne ne peut voir qu'un homme qui chancelle parle de cette manière. Et le Seigneur vous montre ce qu'il veut que vous voyiez, et il ne vous montre pas ce qu'il ne veut pas que vous voyiez. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quoi faire avec mes plaintes. Il poursuit son objectif. Il sait qu'un jour ou un autre, quand j'ai terminé mon point de vue, je terminerai mon travail, tu te réjouiras et tu te verras toi-même délivré. C'est ce que je dirais à tous les enfants de Dieu. L'épreuve ne te tuera pas. L'épreuve n'a jamais tué aucun enfant de Dieu. Lisez dans les Écritures et vous verrez. Car par contre, l'épreuve a amené tous les enfants de Dieu éprouvés à un niveau plus élevé que là où ils étaient avant. L'épreuve ne tue personne. N'abandonnez pas l'église, n'abandonnez pas le Seigneur, n'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la lecture de la parole de Dieu, n'abandonnez pas la prière parce que vous êtes éprouvés. Non! Persévérez! Soyez tenaces! Je suis éprouvé, mais je suis avec Dieu! Il se souviendra de moi un jour. Voilà ce qu'un enfant de Dieu dit. Les épreuves dans la marche avec Dieu sont donc une réalité difficile qui jeta une vraie confusion qu'on peut imaginer dans le cœur de la stérile femme, cette femme abandonnée. Elle était jetée dans la confusion. Si vous avez l'image de cette femme et si vous connaissez son mari, selon la description qu'il fait de lui-même, à partir du verset 5e et le suivant, si vous avez un mari comme celui qui s'est décrit de cette manière-là, il est le créateur, il est le Dieu de toute la terre, il est tout puissant, il est fort, il est vivant, il est éternel, il a toutes les richesses du monde, l'or et l'argent lui appartiennent, il est amour, il n'a pas quelqu'un d'autre qui puisse aimer comme lui. Si tu as un mari comme celui-là, ton avenir est assuré. Et cette femme-là, elle se retrouve aimée par un tel homme, entre guillemets, un tel mari. Et puis elle est rassurée en tout. D'où me viendra la calamité? Mon mari voit tout avant que les choses n'arrivent. Et du reste, c'est lui qui crée les temps et c'est lui qui crée les circonstances. D'où viendra quelque chose? Il guérit les malades. Mon mari fait tout. Mon mari ne peut pas connaître la stérilité. Mon mari ne peut pas connaître la faiblesse. Mon mari ne peut pas mourir. Mon mari ne peut pas. Avec mon mari, tu ne peux rien manquer. Donc, je suis la femme la plus privilégiée. Et puis à un certain moment, paf, il y a crise, il y a épreuve. Le mari n'est plus d'accord avec un aspect des choses qui se passent dans la femme. Et puis le mari ne reste pas et il dit, écoutez, c'est trop, va-t'en, je ne suis plus d'accord avec toi, c'est terminé. Et la femme voit sa vie se briser en un instant. Sa vie, son rêve se briser en un instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Où trouverai-je encore un autre homme comme celui-ci? Nous voyons déjà dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie sur la terre, quand un homme, une femme a épousé un homme avec qui ils ont été bien, il faut avoir Dieu lui-même pour la convaincre d'épouser un autre homme. Parce qu'il se dit, je ne sais pas quel autre homme que je connaîtrai encore comme j'ai connu cet homme-là. Je ne sais pas quel autre homme qui pourra me supporter comme cet homme-là. Je ne sais pas. Non. Je pense qu'il vaut mieux que je reste comme ça. Et heureusement que dans les Écritures, il y a toujours des dispositions qui encouragent les saints et les saintes. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera supérieur. C'est ça des arguments que nous avons pour essayer d'encourager. Mais sinon, ce n'est pas facile. Mais cette femme ici, son mari est un mari particulier. Le jour qu'il part et que la crise s'installe et il est parti dans un instant de colère, c'est par après que le mari est venu dire que cette colère-là était d'un instant. Mais quand il partait, il n'avait rien dit. Ah! C'était le noir total. C'était la confusion totale. Il n'avait rien dit. Et tout ce qu'il avait dit, terminé, je t'abandonne. Tout ce que la femme a entendu, je t'abandonne, je te quitte. Je ne veux plus de toi, va-t'en. C'est plus tard, quand il est revenu, qu'il a dit que dans un instant de colère, je t'avais un moment abandonné. Mais quand il partait, il avait dit un instant, non. La femme ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. La femme ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Son univers s'est écroulé. Son monde s'est écroulé. Tous ses projets s'étaient écroulés. Il ne sait plus, elle ne savait plus qu'est-ce qui va se passer. Ça arrive à tous les enfants de Dieu. Ça arrive à tous ceux qui marchent avec Dieu. Ça arrive à tous ceux qui marchent avec Jésus. Ça arrive à tous les enfants de Dieu vrais avec Jésus. À un moment comme ça, tu te réveilles, tu as l'impression que Dieu t'a tourné le dos. Tu as l'impression que rien ne marche, rien ne va, tout s'est compliqué quelque part, les études des enfants compliquées, ma famille compliquée, ma santé compliquée, mon mariage compliqué, ma vie compliquée, tu as l'impression que tu ne te réveilleras pas demain, prends courage et tu te réveilleras, je ne sais pas quel mari tu avais, si ils avaient un autre mari, ils se réveilleront demain dans la douleur, mais le mari que nous connaissons, l'époux des époux, le merveilleux époux qu'il soit, Jésus de Nazareth, quand il t'a tourné le dos, prends courage, reste là où il t'a laissé, car il reviendra là-bas. Notre Seigneur est fidèle. Reste là où il t'a laissé. Cette femme des Écritures est restée là où il l'avait laissé. Elle n'a pas cherché un autre mari derrière. Elle n'a pas cherché le mari du voisin derrière. Elle était restée là où il l'avait laissé. Si c'était un mari de ce monde, écoute, débrouille-toi parce que lui est parti se débrouiller. Toi, si tu restes, t'es débrouillé. Il t'a abandonné, et tu restes t'es débrouillé. Mais avec l'Éternel des armées, celui qui connaît son mari, celui qui connaît son Dieu, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La femme qui connaît son mari, elle restera là, dit, même s'il est fâché, comment je connais son cœur, il reviendra un jour. Qu'un enfant de Dieu prenne courage, je t'en supplie mon frère, ma soeur. Qu'une fille de Dieu prenne courage, je t'en supplie mon frère, ma soeur. Ce que tu traverses comme épreuve n'a pas vocation à t'effacer. L'épreuve ne va pas t'effacer, mais l'épreuve va te révéler au monde. L'épreuve ne va pas te diminuer, mais l'épreuve va montrer la vraie version de toi. Et tout le monde saura, ah bon, tu étais ça. Oui, c'est ce que j'étais, mais il fallait que le vent passe par là. Il fallait que le feu passe par là. Alléluia. Si nous sommes plusieurs cases, plusieurs maisons bâties dans la ville et dans les quartiers, les maisons qui ont été bâties sur les sables, les maisons qui ont été bâties sur les sables sans fondation, et ta maison, tu l'as bâtie en Christ avec fondation, et que toutes les maisons sont belles dans les quartiers. Vous vous disputez, les locataires qui doivent chercher les maisons, la vraie maison à prendre, mais toutes les maisons sont bien embellies. Alors comment, quelle maison je vais trouver? Et toi tu sais que ma maison est solide, et la maison du voisin là, je l'ai vu comment il construisait, c'est une maison sur les sables. Ne suivez pas la beauté et l'embellissement que vous voyez là, non. Et ils voient la beauté, et ils voient l'embellissement, et ils entrent, les clients ne viennent pas chez toi. Le Seigneur va laisser comme ça? Non. Le Seigneur va donner à tout le monde la révélation la nuit que cette maison-là est une belle maison? Non. Nous sommes belles, beaux, nous maisons. Nous sommes belles, tous de la même manière, mais nous n'avons pas tous la même fondation. Alors, il faut que les vents soufflent et que les torrents passent. Les torrents et les vents, ce sont les épreuves. Les épreuves viennent pour que toutes les cases soient balayées et que les locataires du quartier ne trouvent comme valeureuse que ta maison et ta maison seule. Le Seigneur t'imposera, mais ça sera après là, l'épreuve et après le passage du torrent. Laisse que le torrent passe. Laisse que l'épreuve passe. Après cela, on te verra comment tu brilles. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Qu'il se moque et qu'il joue, qu'il te raille. Évidemment, j'ai déjà dépassé l'étape où ça me faisait mal que les gens se moquent de moi. Que les gens se moquent de moi. Yango belarani. Ozarana sida. Yango belarani. Ozarana cancer. Tonin. Oui, ça passe dans la bino. Ce que moi, c'est un belara belak. Abalanae. Ozaramutali bosso. Oyago bala. Abali, moi, c'est une deuxième femme. Ba pasteur est belé. Bazala, deuxième femme. Et ça, ani. Moquez-vous de moi, comme ça. Il est pasteur. Moi, c'est pasteur Nabine. Mes colonies sont la même chose. Moi, c'est un Abelaka. Moi, il y a un Abelaka. Ce qui est là. À quoi divorcer Naya? Pas de moi, c'est un souci. C'est un Nin. Les membres de l'église. N'importe quoi. Vivez longtemps. Vous allez voir moins. Aujourd'hui, déjà, ça se plaint là-bas. Pasteur, comme il est difficile pendant mon âge. Je dis, non, ce n'est pas difficile de me voir. Je dis, non, pasteur, Naya déjà va tout rébellé, je ne sais pas te voir. Plein de gens, Nazongi. Pasteur, c'est devenu difficile. Je dis, ce n'est pas difficile de me voir. Bats-toi, sois à temps, parmi les premiers et tout, tu me verras. Il n'y a aucune condition pour me voir. Mais moi, je comprends que quand je n'avais pas assez d'occupation, assez de responsabilités, je pouvais rester au bureau. Nous avions des bureaux à l'église de la Borne. On vous donne le bureau là-bas. Je pouvais rester au bureau. Tu cherches un client. Je vous assure, ce bureau de l'évangélisation qu'on a déjà rayé pour embellir l'endroit, ce bureau-là, mais nous étions là, on m'a donné le bureau de la coordination des cellules. Toi, assis-toi ici, ton bureau, c'est ça. Je l'organise, je suis là. Toute la journée de mardi, tu es là. Tu peux recevoir une personne parce que tu as insisté qu'elle vienne. À ce moment-là, qui te connaît? Ce n'était pas un autre mouéou. C'était le même Mouéhu. C'était avec la même onction, la même connaissance, le même Seigneur. Mais qui peut venir? Tu n'as pas encore fait des preuves. Qui peut venir te voir? Mais maintenant que j'ai fait des preuves, les responsabilités ont augmenté. Maintenant, vous êtes nombreux à vouloir. Alors, je vais me partager comment? Et vous qui vous moquez aujourd'hui des enfants de Dieu et même de moi-même, attendez. Donnez-nous du temps, jeunes gens qui êtes là, qu'on vous donne du temps. Votre numéro, et vous êtes aujourd'hui visible. On t'appelle à minuit, on te trouve. On te cherche à 14h, on te trouve. Mais les temps viennent. Quand l'épreuve passera, on te cherchera par des milliers. Ils auront du mal à te trouver. Ce n'est pas que tu seras orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. Tu es là, mais seulement les responsabilités augmentent. Alors qu'ils te méprisent maintenant parce que tu es passé par les épreuves. Et qui a dit que le chômage a déjà tué quelqu'un? Qui a dit que le célibat a déjà tué quelqu'un? Qu'il reste là, qu'il te laisse le temps. Car le Seigneur va souffler de son vent et il n'y aura plus de tout cela que vous voyez. Vivez longtemps et regardez-moi dans quelques années qui vont venir. Vivez longtemps s'il vous plaît. Regardez-moi dans les temps qui viennent. Il y a épreuve dans la voie de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Les épreuves dans la marche avec Dieu sont une réalité difficile qui jeta une confusion, qui jeta une vraie confusion qu'on peut imaginer dans le cœur de la stérile, cette femme abandonnée. Je suis fini ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari, le meilleur, nous nous sommes toujours entendus. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis avec lui, ça va. Ce n'est pas qu'il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu avant moi. Dieu, est-ce que c'est seulement maintenant que tu sais que je suis humain? C'est ce que je lui dis en pleurant. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que tu vois que je suis humain. Je suis humain. Tu l'as vu avant que tu viennes. Et tu es venu comme ça. Je me suis posé la question, es-tu sûr que c'est moi que tu veux? Est-ce que tu as analysé ce qui est à moi? Et quand tu poses la question à Dieu comme cela, ça devient encore comme de l'insulte. Dieu n'a pas besoin d'analyser pour savoir ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes. Et puis il vient. N'as-tu pas vu le meilleur qui était là, au milieu de nous? Ni dans ma famille, et dans ma famille biologique, et dans ma famille spirituelle. Tu as vu le meilleur qui était là. Même moi, quand je les regardais, je voyais, ces gens-là sont éduqués, ces gens-là sont bien, sont dressés. Ils sont des humains, ils luttent encore, mais ils ont un minimum que moi je n'ai pas. Et tu les laisses de côté, tu viens me trouver. Et puis au bout de certain temps, à mi-chemin, oh non, moi, où tu es humain, je ne supporte pas ton humanité. Ah, tu m'avais vu humain. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu, argumentez. Tu m'avais vu humain. Tu savais tout ce que j'étais. Et tu connais aussi combien je t'aime malgré mon humanité. Toi, tu as dit que tu m'as aimé tel que je suis. Moi aussi, j'ai dit, bon, comme tu m'aimes tel que je suis, moi aussi, je t'aime tel que je suis. Alors, supportons-nous, avançons. C'est toi qui as les moyens de m'amener. Je lui dis ça. Comme tu es venu, c'est que tu as cru en toi. Tu n'as pas cru en moi. Tu as cru en toi pour m'amener là où tu veux m'amener. Mais si tu commences à me regarder, moi, alors là, ça ne va pas. Et toi et moi, nous regardons à toi. Et toi et moi, notre force, c'est toi. Parlez avec Dieu, mes amis. Suis-je fini? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je vais terminer? Tout le monde se moquera. Un tel mari, où le trouverai-je encore? Une telle personne, un tel époux, le tel sauveur, où le trouverai-je encore? Avec de telles paroles, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Où le trouverai encore? Jésus, où trouverai-je un semblable à toi? Je peux trouver une autre université en dehors de celle que j'ai abandonnée ou qui m'a abandonné, qui m'a refoulé. Je peux trouver une autre faculté. Je peux trouver un autre ami. Je peux trouver une autre association. Je peux trouver une autre entreprise. Je peux trouver une autre église locale, terrestre. Je peux trouver un autre pasteur. Mais Jésus, toi, où est-ce que je trouverai un semblable à toi? J'ai dit au Seigneur Jésus, si tu veux m'abandonner, alors montre-moi quelqu'un qui te ressemble, dès que tu m'abandonnes, comme tu m'as déjà donné le goût déjà de ton genre, dès que tu m'abandonnes, que j'aille à lui. Or, tu n'as pas un autre, tu ne m'abandonneras pas. Et moi non plus, je ne t'abandonnerai pas. Tout cela dans l'épreuve. Regardez les paroles des serviteurs de Dieu dans l'épreuve et vous comprendrez que l'épreuve n'épargne personne. Écoutez les paroles de David dans l'épreuve. Écoutez les paroles d'Élie dans l'épreuve. Écoutez les paroles de Moïse dans l'épreuve. Écoutez les paroles de Pierre dans l'épreuve. Écoutez les paroles de tout le monde, tous les serviteurs de Dieu dans l'épreuve. Écoutez, et vous verrez que vous n'êtes pas les seuls à être éprouvés. Jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, avant vous, des hommes et des femmes ont été éprouvés. Mais des hommes et des femmes ont été distingués après l'épreuve. Suis-je fini? Et pourtant, j'avais un avenir merveilleux et radieux avec mon époux. Et le voilà qui est parti. Il a trouvé quelque chose qui ne va pas à moi. Le fait que l'union, notez, le fait que l'union de ce couple avait continué pour l'éternité. Quand je dis comme cela, je parle à ceux avec qui nous avons lu les chapitres là. Parce qu'il dit, avec un amour éternel, je t'accueillerai. Ça, vous vous souvenez? Venez dimanche prochain, nous allons lire tous les chapitres. Ça vous donne encore une idée. Parce que là, j'ai lu un verset. Ça fait longtemps qu'on a lu tous les chapitres. Dimanche prochain, on va lire tous les chapitres. Donc, un verset quelque part, il est dit dans ce chapitre-là, il est dit, avec un amour éternel, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, j'étais un moment abandonné. Mais avec un amour éternel, je t'accueillerai. Ce sont des choses que nous allons voir. Donc, l'union de ce couple ici a continué jusque dans l'éternité, n'est-ce pas? Quand le mari en question, l'époux, l'Éternel des armées dit, avec un amour éternel, je t'accueillerai, ça veut dire, ce nouvel amour avec lequel je t'accueillerai ne connaîtra plus de moments d'instant de colère. Donc, l'union avait commencé, avait continué pour l'éternité. Formidable. Le fait que l'union de ce couple avait continué pour l'éternité malgré un instant d'abandon est un encouragement. Ce fait-là est un encouragement pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Sachant qu'en Christ, aucune crise ne nous séparera de notre époux divin. Je pensais que c'était la bonne nouvelle que je vous donne. Le fait que l'union de ce couple avait continué pour l'éternité malgré un instant d'abandon est un encouragement pour le peuple de Dieu. Alléluia. Un encouragement sachant qu'en Christ, en Jésus-Christ, aucune crise, je dis bien, aucune crise, préparez Romains chapitre 8, le verset 35. Sachant qu'en Jésus-Christ, aucune crise ne nous séparera de notre époux divin. Je dis bien en Jésus-Christ, aucune crise. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, les tentations, les épreuves, les douleurs vous effaceront. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, votre racine est solide. La Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déraciné. Mais le contraire, c'est que vous, les justes, les enfants de Dieu, croîtront dans la maison de Dieu comme les palmiers. Jusque dans leur vieillesse, ils porteront encore le fruit. Autrement dit, si toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée, mais la plante que mon Père a plantée, aucun vent ne les déracinera. Alléluia. Et nous resterons dans la maison de Dieu comme les colonnes si nous sommes vaincus. Et nous n'en sortirons plus. Enfant de Dieu, es-tu sauvé? Tu as une racine solide. Cette racine-là, ni toi-même, ni qui que ce soit n'est capable de pouvoir te déraciner. Ton découragement ne veut rien dire. Si on se décourage, si le découragement d'un enfant de Dieu pouvait le déraciner, alors Élie serait déraciné. Mais il était découragé et il était prêt à abandonner. Mais il avait une racine solide. Le Dieu d'en haut est descendu pour lui dire, que fais-tu ici? Oh non, je suis fatigué, j'ai fait ceci, maintenant il sait ça me tuer, je préfère demander la mort. Élie, qui t'a dit que tu dois mourir maintenant? Élie, qui t'a dit que ta racine est déracinée, que ta racine est coupée? Qui t'a dit ça, Élie? Au contraire, le ciel est venu pour te donner à manger et à boire, car ta route est longue. C'est ce que je dis à un enfant de Dieu. Tu penses que ta vie est finie, ce n'est que le commencement. Tu penses que ta vie est terminé, ce n'est que le commencement, car la gloire qui te reste à voir est plus grande que la gloire que tu as vue jusqu'à présent, car la gloire. Élie, en parlant de la mort, parce qu'il est découragé par l'épreuve, en parlant de la mort, il pensait être mourir au désert et être enterré au désert. Non, Élie, tu ne seras pas enterré au désert. Non, toi tu as été prévu, non pas pour mourir, mais pour monter avec les chars de feu. Est-ce que vous comprenez que le meilleur de toi qui est secoué par l'épreuve, le meilleur n'est pas dans ton passé, le meilleur est dans ton futur. Alléluia. Élie a vu le feu descendre du ciel pour consumer l'offrande. Ça, c'est Dieu qui s'est distingué. Mais Élie a vu aussi le feu descendre du ciel avec les chars. Ça, c'est maintenant pour distinguer l'homme de Dieu. Tu n'as pas encore été distingué. Reste ferme, peu importe l'épreuve que tu connais. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu secoué par l'épreuve? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu bougé par l'épreuve? Elle ne te consumera pas. Elle ne te consumera pas. Dis à ton voisin, le meilleur est devant moi. Le meilleur de Dieu est devant moi. Ne regardez pas mon chancellement de maintenant. Ne regardez pas mon épreuve qui me jette par terre maintenant. Ne regardez pas à mes plaintes et à mes murmures et à tout ce que je traverse. Ne regardez pas ça. Le meilleur est devant moi. Merci ma sœur, merci mon frère. Le meilleur est devant toi. Merci Jésus. Sachant qu'en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, le verset 35. Sachant qu'en Jésus-Christ, aucune crise, dites aucune crise, dites aucune crise, ne nous séparera de l'amour de notre époux, de l'amour de mon époux. Romains chapitre 8, le verset 35, nous lisons tous ensemble. C'est connu de nous tous. Malheureusement, nous connaissons pas ça comme des perroquets et nous n'en connaissons pas la profondeur à l'intérieur. Il est écrit quoi? Allons-y tous ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Qui? Ton ennemi? Le sorcier? Le diable? L'occultiste? Ton chef? Ton mari? Ta femme? Ta famille? Qui? Ton chômage? Ta stérilité, ta maladie, c'est quoi? Qui? Ta pauvreté? Qui? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Allons-y. Sera-ce la tribulation, c'est-à-dire hein, l'épreuve? Sera-ce la tribulation? Répondez, non. Sera-ce l'angoisse? Non. Ou la persécution? Non. Ou la faim? Non. Ou la nudité? Non. Ou le péril? Non. Ou l'épée? Non.
ni les anges, ni les démons, ni les puissances des ténèbres, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est une assurance, une garantie, un gage de chaque enfant de Dieu. Alléluia. On n'a pas, quelqu'un va dire, mais on n'a pas cité le péché là-bas, le péché te séparera. Ok. Nous sommes dans le Nouveau Testament où le péché est ôté. Mais déjà dans l'Ancien Testament, où le péché n'était pas encore ôté, il était couvert. Dieu dit dans Psaume 89, Dieu dit au sujet de David, il dit, moi, mentirai-je à David? Je l'ai choisi, je l'ai oint, j'ai choisi un jeune homme, j'ai donné ma force à un héros, j'ai prêté ma force à un jeune homme. Je ne mentirai pas. L'alliance que j'ai faite avec David ne sera jamais rompue. Dieu lui-même qui dit, ne sera jamais rompu. Même quand ses propres enfants qui viendront, ils bénéficieront de cette alliance. J'ai traité une alliance avec David, ils seront toujours sur le trône. David aura toujours un représentant sur le trône pour l'éternité, jusqu'à ce que Christ vienne. Avant que Christ ne vienne, David a eu des enfants physiques. Alors Dieu sait que les enfants physiques comme David lui-même sont des pécheurs. Maintenant Dieu dit, les hommes diront, ok, le péché séparera et puis le péché mettra fin à l'alliance. Dieu dit, s'il arrive dans la suite des temps que ces enfants pêchent, je les frapperai par des coups des hommes. Mais il ne sera pas question que je retire mon alliance car je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé, ôté les péchés. Alors nous pouvons ajouter sur cette liste-là, même le péché est incapable de t'éloigner de ton époux divin. La solution du péché a été trouvée. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas à l'insécurité. Non, tu n'es pas à l'insécurité pour que tu trembles à tout moment vis-à-vis des sorciers, vis-à-vis de quoi que ce soit. Tu as la grossesse, tu as peur. Il ne faut pas que tu baïeba. Famille, puisque ceux qui baïeba, c'est mes côtés. Et que ça m'a bé, n'a pas mis les combien. Écoute, tu es enfant de Dieu. La Bible dit, tu es béni d'entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles, c'est béni. L'enfant de Dieu qui est dans mon sein, je lui impose les mains. Et si c'est ma femme, je lui impose les mains. Cet enfant est intouchable car c'est la continuité de ce que Dieu a fait avec moi. On ne touche pas à l'enfant moeuvre. Alors chacun de nous peut ajouter son nom. On ne touche pas à l'enfant. Mais enfin, vous n'avez pas mis votre nom à haute voix. On ne touche pas au fils de moeuvre, aux filles de moeuvre. On ne touche pas. Alors pourquoi j'ai dit le fils de moeuvre? Parce que moeuvre n'a pas que des filles. Moeuvre a aussi des fils. Moeuvre n'a pas que des enfants biologiques. Moeuvre a des enfants spirituels. Dans l'église de moeuvre, les troupeaux, les loups n'entrera pas pour prendre n'importe qui comme il veut. Vous êtes sous la sécurité. Ce qui est à moi est à moi. On ne touche pas. Est-ce que vous savez que vous m'avez fait confiance? Alors, cette confiance vous confère la sécurité que moi vous a reçue de Dieu. Je suis sécurisé, vous êtes sécurisé. Je suis béni, vous êtes béni. Je suis élevé, vous êtes élevé. Tel père, tel fils. On ne touche pas aux enfants, moi vous. On ne touche pas aux enfants, moi vous. Vous êtes en sécurité. Je ne parle pas de toute la borne, m'a t dit, composée des hommes et des femmes, certains qui ne connaissent même pas le Seigneur. Je parle aux vrais enfants de Dieu qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ et que vous avez été remis sous la responsabilité physique de Mouehu. On ne touche pas à Mouehu et on ne touche pas à ce qui appartient à Mouehu. Or, vous m'appartenez. Donc, terminé. On ne vous touchera pas. On ne touchera pas votre travail. On ne touchera pas votre santé. On ne touchera pas ce qui vous appartient. Parce que j'ai dit au Seigneur, tu m'as fait confiance et tu m'as donné des hommes qui m'ont fait confiance. Que ces hommes-là ne soient pas la proie de toutes ces puissances des ténèbres. Rien ne nous séparera. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la lutte, quelle que soit la nullité, la faim, quelles que soient les épreuves, les chômages, quelles que soient les menaces, quelles que soient les tentations, les épreuves, quelles que soient les luttes que vous connaissez, les luttes de tout genre, partout où vous passez, et tu te poses la question, il n'y a que moi qu'on voit, alors s'il n'y a que toi qu'on voit, c'est que dans cette contrée-là, c'est toi qui as la bénédiction majeure. Joseph, Jacob avait plusieurs enfants. 12, si nous enlevons la fille. Mais les épreuves ne se sont apaisanties que sur un avant-dernier, le tout petit. Si les épreuves s'accentuent sur toi, quel que soit ton âge, c'est que dans votre famille ou dans votre contrée là, c'est toi qui as la bénédiction majeure. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme Israël, l'Église s'est souvent trouvée dans la peau de cette stérile. Comme Israël, l'Église s'est souvent trouvée dans la peau de cette stérile, à l'instar de la condition et de la déclaration de Gédéon, et même à l'instar de la confusion des deux disciples qui s'entretenaient sur la mort de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Tous, l'un israélite dans l'Ancien Testament, l'autre israélite membre de l'Église du Seigneur dans le Nouveau Testament, les autres membres israélites membres de l'Église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ils étaient tous bouleversés. Tout ça, je suis en train de vous montrer qu'avant vous, il y a eu des hommes qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu, et avant vous, des hommes qui ont marché avec Dieu ont connu des moments de bouleversement, des moments de qu'est-ce que c'est, des moments de lutte, des moments des épreuves terribles. Terribles. Mais le Seigneur était toujours là. Comme Israël, l'Église s'est souvent trouvée dans la peau de cette femme stérile. Quand je dis s'est souvent trouvée dans la peau, vous comprenez ce que je veux dire? L'Église aussi a déjà connu des situations, a souvent connu des situations comme cette femme-là avait connu. Comme Israël, l'Église s'est souvent trouvée dans la peau de cette stérile, à l'instar de la condition et la déclaration de Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon a connu comme condition et qu'est-ce qu'il a déclaré? Nous allons voir. Et même à l'instar de la confusion des deux disciples, dans laquelle étaient deux disciples qui s'entretenaient sur la mort de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. À propos de la mort de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Le premier, c'est-à-dire Gédéon, n'est-ce pas? Le premier incarne Israël doublement éprouvé. Nous sommes en train de parler des épreuves, n'est-ce pas? Dans la marche avec Dieu. Le premier incarne. Tout cela, nous sommes en train de le voir dans l'épreuve, nous sommes en train de le voir dans les couples-là composés de cette femme Israël et de son mari, l'époux divin, l'Éternel des armées. Dans un instant de colère, j'étais un moment abandonné. C'est une épreuve. C'est une épreuve terrible. Comme Israël, l'Église s'est souvent trouvée dans la peau de cette stérile, à l'instar de la condition et de la déclaration de Gédéon, et même à l'instar de la confusion des deux disciples qui s'entretenaient à propos de la mort de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Le premier, c'est-à-dire Gédéon, le premier incarne Israël doublement éprouvé. Israël doublement éprouvé. Donc Gédéon incarne, donne l'image d'Israël de cette époque-là, comme une femme abandonnée effectivement. Le premier incarne Israël doublement éprouvé qui affrontait à la fois l'absence de l'Éternel,
l'absence, entre guillemets, l'absence de l'Éternel est l'absence de l'Éternel est la menace des Madians qui les avaient assiégés. Alors, quel désarroi, quel effroi, quelle douleur, quelle épreuve. La Bible dit qu'Israël avait péché au temps de Gédéon et l'Éternel les livra entre la main des Madians. Pendant combien de temps? 7 ans. Pour Madian, c'était 7 ans que Madian les avait assiégés. Juges chapitre 6, vous pouvez lire ça. La Bible dit qu'Israël s'aimait et les Madianites venaient et ils l'ont ravagé. Vous voyez l'importance de lire la Bible, hein? Ceux qui lisent la Bible, dès que tu dis quelque chose, ils comprennent de quoi il s'agit. Les autres ne savent même pas. Lisez la Bible. Prenez la décision de lire la Bible chaque jour. Et ne lisez pas point par point. Prenez un chapitre, lisez-le petit à petit, terminez. Prenez un livre, lisez un chapitre, petit à petit, terminez. Prenez un autre livre, prenez un autre chapitre, lisez petit à petit, vous terminez. Ainsi de suite, livre par chapitre. Livre par livre, chapitre par chapitre, vous avancez progressivement. Même si vous pouvez terminer la Bible 10 ans, mais au moins que vous ayez lu toute la Bible. Lisez la Bible. Les premiers incarnent Israël doublement éprouvé, qui affrontait à la fois, le même Israël qui affrontait à la fois au temps de Gédéon, qui affrontait à la fois l'absence de l'Éternel, absence entre guillemets, l'absence de l'Éternel, et la menace des Madians qui les avaient assiégés. Madians les avaient réduits à l'esclavage. Pourquoi? Parce que Israël avait péché et l'Éternel leur avait tourné le dos. La Bible dit l'Éternel les vendit entre les mains des Madians et Madian les domina pendant 7 ans. Vous voyez? Donc l'Éternel se fâche. C'est un peu comme au temps d'Ésaïe. L'Éternel se fâche et il se détourne de sa femme, Israël. Et puis il les vend entre les mains des Madians. Et le Madian les domine. Dans cet état de désarroi, dans cet état de désespoir, dans cet état d'abandon et du siège des Madians, la stérile entendit le désespoir de la stérile. C'était quoi? L'abandon de son mari, n'est-ce pas? Dans cet état de désespoir, la stérile entendit la voix familière disant, réjouis-toi, alléluia, au milieu du désespoir total, la colère avec laquelle je l'ai vu partir là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est terminé. Mais un temps après, contre toute entente, il entend une voix, ce n'est pas la voix d'une voisine, la voix d'un homme quelconque, de quelqu'un qu'il connaisse, d'une connaissance de la famille, non, qui vient la consoler, non. Il entend une voix et elle est habituée à cette voix. Dès qu'il entend cette voix, il dit, ça c'est sa voix. Et puis il entend une voix qui lui dit, réjouis-toi stérile. Il dit, quoi? Comme tu es parti là, tu sais que derrière moi, on s'est moqué de moi comme stérile. Quelle joie d'entendre la voix familiale. Mes brebis entendent, connaissent ma voix. Et elles m'entendent ma voix et elles me suivent. La femme connaît la voix de son mari. Et le mari connaît la voix de sa femme. C'est exactement ça. Dans ce désespoir, elle va entendre une voix familière disant, réjouis-toi. Ça, c'est pour la femme stérile. Elle a entendu la voix familière. Là où Gédéon a battu, fut surpris d'entendre l'Éternel, d'entendre 2 points, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment? C'est l'Éternel qui nous a vendus. Et nous sommes dominés. Toutes nos productions sont complètement ravagées. L'épreuve nous consume. De quel Éternel parles-tu? De quel Éternel? C'est le même Éternel qui t'a abandonné. Au fait, il ne t'a pas abandonné. Il n'était pas absent dans le pays. L'absence de l'Éternel, comme on dit, ne signifie pas son absence. Quand nous disons que l'Éternel n'est plus, ça veut dire le silence ou l'absence. Le silence de l'Éternel n'est pas son absence. Mais quand nous disons que l'Éternel est absent, nous voulons tout simplement dire l'Éternel a suspendu son action.
Il est avec toi, il suspend son action. Mais maintenant, il peut revenir en charge pour reprendre son action. Et personne n'est allé les supplier. Personne n'est allé. Dans les autres cas, vous allez voir, oh non, et le peuple, après avoir été assiégé, le peuple cria à l'Éternel, et l'Éternel les suscita un juge. Mais dans le cas des Madianites ici, on ne voit pas là où le peuple a crié. C'est l'Éternel de lui-même qui vient et qui dit, il trouve l'un d'eux, les plus petits dans sa maison. Sa maison est plus petite dans la famille est plus petite dans la tribu, et la tribu est plus petite dans le pays. Il était 4 ou 3 inférieur. C'est cette personne-là que le Seigneur vient trouver en disant, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Si moi je disais à quelqu'un qui vient de nulle part et tu n'as personne, même ce soir ici, tu ne sais pas tu vas dormir où, tu vas manger quoi, tu ne sais absolument rien. Si je te disais que l'Éternel est avec toi, tu croiras? C'est la même manière que Gédéon dit, ah, ça c'est vraiment, j'ai vu Gédéon comme s'il était pendé, comme s'il était de ma tribu, il dit, ah, ah mon Seigneur. Avec quelle force délivrerai-je Israël? Ah, l'Éternel est avec nous. Nous connaissons l'Éternel. Quand il est quelque part, il fait des merveilles. Comment l'Éternel est avec nous et les choses comme ça sont au milieu de... Ah non, l'Éternel n'est pas avec nous. Oh, l'Éternel est avec nous. Quelle force, je suis plus petit. Va avec la force que tu as. Oh non, mais je suis plus petit. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh non, moi je suis... Ok, c'est toi vraiment. Que l'eau tombe ici, mais l'eau ne tombe pas là-bas. Ok. Et puis le lendemain, il vient, il voit, l'eau est tombée là-bas, ne tombe pas là-bas. Il dit, ah non, c'est pas grave. Peut-être c'était de l'hasard, des hasards. Que l'homme tombe maintenant ici, et que là-bas l'homme ne tombe pas. Et puis il vient, et toi, l'eau est tombée, et là, tombe. Ah, Dieu est avec moi. Si tu as besoin de signes, il te les donnera pour te prouver que l'épreuve ne t'effacera pas. Dans l'épreuve, le Seigneur est toujours là. Je parle dans l'épreuve des enfants de Dieu. L'Éternel est toujours là. S'il n'est pas là visible à tes yeux, il est là te regardant. Parce qu'il sait que cette épreuve a des limites que ça ne doit pas dépasser. Il dit à Satan, tu vas les toucher, tu vas faire tout, mais n'ose pas toucher à sa vie. L'Éternel regarde Satan. Satan voulait en finir avec Job, mais il a reçu des limites. L'épreuve là a son temps. L'épreuve là a ses limites, l'épreuve là a reçu l'ordre de ne pas t'effacer, l'ordre de te former, mais ne pas t'effacer. Mes amis, je ne sais pas comment vous donner cet exemple, c'est un message, en pleine crise que je suis, le Seigneur un jour me donne un message. Je n'ai jamais compris exactement ce que ça voulait dire. Quand je mets quelques idées que ça peut vouloir dire ça, moi-même je me dis non, Maurice, il ne faut pas interpréter ça comme ça, non. Mais maintenant, je n'ai pas une autre façon d'interpréter ça. Je vois dans cette lutte ici, le Seigneur m'a parlé plusieurs fois. L'une des messages que le Seigneur m'a donné, mais concernant, je suis à la tête d'une grande délégation, d'une grande foule comme vous. Donc c'est vous. J'ai vu parmi vous quelques-uns dont j'ai vu le visage. Je suis avec eux sur un chemin. Arrivé quelque part, nous empruntons le chemin. Arrivé quelque part, je vois que ce chemin s'est devenu vieux, ancien. Les gens n'y passent plus. Mais comment? Est-ce que c'est par ici que nous devrions passer? Je me rends compte, ah non! Tu vois, quand vous êtes en brousse et qu'il a plu, et les camions ne passent plus par là parce qu'il y a de la boue, ils ont déjà fait un détour pour aller rejoindre le même chemin, mais un détour. Je dis, ah non, la branche qu'on pratique, ce n'est pas celle-là. Celle-ci, on l'a déjà abandonnée. J'ai oublié de prendre l'autre branche nouvelle. Et puis j'ai conduit, j'ai fait comme l'angle, j'ai conduit tout le monde. Nous sommes allés. J'ai vu quelques figures, je ne vais pas les citer ici. J'ai vu quelques figures, parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Il y a un pasteur, il y a l'autre en gâté. Ce qui nous a dit, il y a l'autre en gâté. Et puis, ce qui nous a dit, ce n'est pas ça qui donne l'assurance. Alors, je suis parti avec les quelques personnes là, sur ce chemin. Le chemin là, où la nouvelle branche de ce chemin, là où nous étions, il y avait un creux. Sur la route, comme sur la route de Matadi. Montagne de ce côté, montagne de ce côté. On a taillé la montagne, la route est en bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Arrivé quelque part, il y avait une barrière. Barrière en fer, vous ne pouvez pas passer. Et en dessous de ces barrières, il y avait un fond, comment je vais dire, un fossé, je ne sais pas quoi. Un trou profond. sur la route, un trou profond, grand, et il y a la barrière. Tu ne peux pas traverser. Et j'arrive là, toute la foule qui était derrière moi m'attend. Je dois traverser d'abord avant qu'ils ne traversent. Ces épreuves que je mène, tant que je ferai les surplaces, je ne peux pas me vanter. C'est comme ça que Dieu a prévu ça. Tant que je ferai les surplaces là où je suis, vous aussi, vous serez là derrière moi sur place. Ça, c'est ce que j'ai vu et plusieurs personnes ont vu ça et moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois. Je fais les surplaces, vous faites les surplaces. J'avance, vous avancez. Vous avez intérêt que j'avance. Et priez pour moi. D'accord. Je suis là, bloqué. J'ai dit, mais nous devons passer. Je prends le courage, je ne sais pas comment. Je saute pour tenir, parce qu'il y a les trous là-bas. Je saute pour tenir la barrière là, afin de tenter d'aller de l'autre côté. Impossible. Et je reste à cette barrière là, suspendue. Mes pieds ne sont plus au sol, parce que j'ai sauté. Et en bas, il y a un trou profond. Je ne peux plus lâcher, je vais dans les trous. Et je reste là, comme ça, suspendu. Et tout le monde m'attend. Je vois de l'autre côté en face un village avant que nous un village en face. Ce n'est pas là-bas que nous allions, nous devions passer, mais il y a un village en face. On appelle les gens du village là, quelqu'un vient de là pour dire « Attends, attends là où tu es, on est parti chercher pour vous l'escalier, pour venir vous faire passer. » Depuis qu'ils sont partis chercher l'escalier, ils ne venaient pas encore. C'est là que nous sommes jusqu'à présent, l'escalier est parti chercher, on ne vient pas. Ok. Priez qu'ils viennent avec l'escalier. Entre-temps. Oh, mais je vous dis tout ce qui se passe, mes amis. Vous pensez que j'ignore ce que j'ai vu, je connais tout ce que j'ai vu. Depuis qu'ils sont partis chercher l'escalier, ils ne viennent pas. On attend. Et moi, je suis là suspendu. Vous pouvez rester comme ça suspendu longtemps. Si tu te fatigues, tu ne peux pas te gratter, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas. Si tu lâches, tu tombes. Et toute la foule m'attend. J'étais là suspendu. Il est parti. Du village, ceux qui sont partis chercher l'escalier sont partis. Mais du village là, un autre, c'est pas du village ou du quoi, je ne sais pas. Un autre, maintenant, c'est un autre homme important. En veste noire, très bien portant, un homme important. Cet homme important vient avec un plateau, et sur le plateau, il y avait une sorte de bol. Hein, vous voyez les grosses tasses comme ça, là, mais comme bol. Et il y avait là du potage à l'intérieur, bien préparé sur un plateau de grand. Il vient avec, il m'étend pour que je mange. Mais moi, je suis suspendu. Et moi, j'ai des gens. Il n'amène pas ces gens qui sont avec moi. C'est à moi qu'il amène que je mange. Moi-même, je m'étonne. Je dis, ah, mais nous sommes en difficulté. Nous sommes en train de passer. Comment tu me donnes à manger? Il a vu ça. Je n'ai pas parlé. Il a vu ça dans mes regards. Il me dit, mais tu es le prince Maurice, non? Et j'ai commencé à manger. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas comment j'ai mangé ça. Parce que j'ai les mains comme ça. Donc, ce sont des... Si vous avez Dieu et que Dieu peut vous donner l'explication, venez me donner. Mais tout ce que je sais, c'est que dans l'épreuve, dans n'importe quelle ténèbre, Dieu allumera une petite lumière que vous verrez, qui va vous encourager que non, 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 nous ne sommes pas abandonnés. Je n'ai pas vu Dieu absent dans une seule épreuve que je vis. C'est pourquoi je tiens comme ça et je parle comme ça devant vous. Sinon, l'épreuve que je traverse, sans Dieu dedans, je ne ferai pas une année dans cette ville. Sans Dieu, une année dans cette ville, non. Comment j'ai mangé, c'était quoi? Ça, je n'aime pas interpréter à haute voix, et même dans mon cœur, quand j'interprète, je dis non, Maurice ne dit pas ça. Si vous avez trouvé l'explication de ce potage-là, et je suis suspendu, et je dois manger ça, et je suis le prince Maurice qu'on sert, un prince qui est suspendu, venez me dire. Wow. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pourtant, les Madianites sont dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Le deuxième point de ce message, je ne l'ai pas touché. Peut-être que je l'ai touché au premier culte. C'est comme au deuxième culte. C'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Vous, le dimanche, le premier culte, le dimanche passé, je vous avais donné tous les deux points. Et au premier culte, au deuxième culte, il n'avait eu qu'un point. Mais maintenant, le point qui reste ici est très important concernant les amis d'Emmaüs. Ça, vous n'avez pas entendu ça, si Dieu fait grâce au deuxième culte. Si vous voulez doubler, vous êtes libre. Baissons la tête dans la prière.